bonjour Pierre Samboul.
Bonjour.
Voilà, donc tu es invité ce mercredi 24 avril 2013 donc pour présenter les travaux que tu as faits et la publication du livre Israël-Palestine, du refus d'être complice à l'engagement. Donc est-ce que tu peux bien te présenter aux auditeurs et nous dire un petit peu ton parcours qui a mené finalement à ces travaux dont on reparlera?
Bon, j'ai fait un petit peu cet énorme bouquin parce qu'il fait 600 pages et près d'un kilo. Ça pourrait s'appeler un point de vue juif sur l'apartheid israélien. Et j'ai commencé un petit peu par mon parcours personnel. J'ai des parents qui sont nés dans un pays qui n'existe plus, qui s'appelle la Bessarabie en Europe de l'Est, et qui ont été communistes, qui ont été résistants pendant la guerre. Ma mère a perdu toute sa famille qui a été exterminée. Mon père a été dans le groupe Manoukian. Il a été déporté à Buchenwald. Les nazis ne savaient pas qu'Istanbul était un non-juif. Mais moi qui nais après la guerre, donc d'un petit peu juif athée, donc et anti-religieux dès le départ, je nais un petit peu dans un univers de survivants du génocide. Et puis, un peu comme mes parents, j'ai été sioniste assez vite, quand j'étais adolescent. Je suis parti en 1967 travailler en kibboutz. Et en fait, ma rupture avec le sionisme mettra un certain nombre d'années. Elle vient de ce que je vois en Israël, qui ne correspond pas du tout à mes idéaux. Elle vient aussi dans mon engagement communiste libertaire après 1968. Mais mes premiers textes contre le sionisme commenceront, disons, au début des années 80, avec notamment l'invasion du Liban par les troupes de Sharon et Begin, les crimes de guerre, Sabra et Shatila. Et puis, en tant que militant d'extrême-gauche, j'écris depuis 25 ans dans des revues syndicales révolutionnaires qui ont été l'École émancipée, puis maintenant Émancipation, des brèves. Et j'ai réussi à retrouver toutes ces brèves pour le livre. Et donc on y trouve l'histoire, mois par mois, de ce qu'on peut appeler un rouleau compresseur colonial qui a écrasé le peuple palestinien. Donc je peux dire que mon engagement s'est fait en tant que juif, un juif athée, un juif antisioniste, et un juif qui a découvert le colonialisme, et qui a découvert avec une assez grande satisfaction que cette guerre n'étant ni raciale, ni communautaire, ni religieuse, cette guerre portant sur des principes universels, l'égalité des droits, le refus du colonialisme, finalement, je disais la même chose que les Palestiniens qui sont en résistance.
Oui, voilà, c'est ça le thème qui est la ligne conductrice de ce livre, c'est effectivement le rôle majeur de l'idéologie sioniste.
Absolument.
dans la colonisation, et donc la solution passe par cette compréhension, d'après toi.
Elle passe aussi un petit peu de la même façon qu'il était impossible en Afrique du Sud d'arriver à une issue avec le maintien de l'apartheid. Il n'y aura pas de paix fondée sur l'égalité des droits et la justice en Palestine avec le maintien de l'idéologie sioniste. Alors je parlerai pas mal de cette idéologie sur laquelle il y a énormément de choses à dire, mais pour dire très rapidement, le sionisme, c'est une théorie de la séparation qui dit que juifs et non-juifs ne peuvent pas vivre ensemble. C'est un colonialisme très particulier qui ne veut pas asservir le peuple opprimé mais qui veut l'expulser. C'est un nationalisme très particulier parce qu'il a inventé le peuple, la langue et la terre, rien que ça. C'est une gigantesque mystification de la mémoire, de l'histoire et des identités juives. Bon, je parlerai un petit peu des rapports troubles que le sionisme a pu avoir avec le fascisme, de la façon dont le sionisme a abouti à la création d'une société raciste profondément. J'essaierai de donner tous les liens qu'il peut y avoir entre sionisme et les différentes religions, que ce soit la religion juive, la religion chrétienne ou la religion musulmane. Je montrerai que ce conflit est fondamentalement un conflit colonial et n'est pas du tout un conflit religieux, contrairement à tout ce qu'on peut croire. Et donc voilà la conclusion, et j'espère convaincre les auditeurs ce soir, c'est que on peut comprendre que les Palestiniens aient discuté à Oslo parce qu'ils en étaient à la troisième génération de réfugiés, Mais il y avait une certaine naïveté à croire qu'un compromis était possible avec des sionistes à visage humain. Le sionisme n'est pas une idéologie à visage humain.
Oui, pour autant, pour les... Comment ça s'appelle pour tous les, ceux qui ont du poids dans le... Comment ça s'appelle au niveau, dans le, non, pas dans le mouvement de solidarité, mais enfin dans ceux qui sont de, les chefs d'État, etc. Mmh. La position avant, c'était de, une critique radicale des Palestiniens qui n'étaient que des terroristes et l'État d'Israël qui, de fait, se défendait. Donc, est-ce que le, cette opération-là n'a pas, comment dire, changé un petit peu l'image quand même des Palestiniens dans le reste du monde?
Ben j'expliquerai que l'État d'Israël tel qu'il existe aujourd'hui, État surarmé, dépensant 60% de son budget dans l'armement et les technologies de pointe, c'est l'État rêvé des dirigeants occidentaux, c'est celui qu'ils souhaitent. Quand l'Occident veut tenir le Proche-Orient, il a besoin d'Israël, il a besoin des monarchies du Golfe. Mais qu'évidemment, si on veut parler aujourd'hui d'une paix juste et durable, il faut arrêter de parler de cette domination, il faut arrêter de parler de la sécurité de l'occupant, enfin de tout ce qui a été des pseudo-négociations qu'on a voulu imposer aux Palestiniens et qui n'étaient rien d'autre que des demandes de capitulation. Et il faut reparler du droit. Et le droit, c'est l'égalité des droits, c'est la réparation du crime fondateur qui a été le nettoyage ethnique de 1948. En gros, les Palestiniens, dans l'appel que 172 associations palestiniennes ont lancé au monde entier pour le boycott des investissements sanctions en 2005, avaient trois revendications. Les trois revendications, c'est l'égalité des droits, la fin de l'occupation et de la colonisation, le droit au retour des réfugiés, et il faut s'en tenir là. Tout le mouvement de soutien doit dire, ben, ça c'est évident, et c'est là-dessus qu'une paix juste peut se faire et sur rien d'autre.
Le, au niveau des... Je veux juste revenir sur le, la question des... En particulier sur la question de la France, qui est quand même, tout gouvernement confondu, apporte un soutien... assez ferme quand même à Israël. Ces gouvernements successifs se sont tous targués de laïcité et pour autant ils défendent un État juif. Comment cette contradiction est...
Il y a cette contradiction de... Fondamentalement, ce que j'ai dit, c'est que le soutien français à Israël est un soutien de type solidarité impérialiste. L'exemple le plus criant, c'est... le jour même du cessez-le-feu après l'opération Plomb durci en janvier 2009, où Sarkozy dit qu'il va envoyer un sous-marin au large de Gaza pour empêcher le Hamas de reconstruire les tunnels. Bon, après, sur la question de laïcité, Israël n'est évidemment pas un État laïque. Israël se définit comme un État juif. Même si on prend, par exemple, Shlomo Sand dit « État juif et démocratique », c'est un oxymore, c'est une contradiction absolue. Quand on est État juif, on n'est évidemment pas État démocratique, parce que tous les non-juifs sont opprimés. Je rappelle que le seul État qui s'est défini comme État français, c'était Vichy. Donc nous, on est pour l'égalité des droits, pour le refus d'essentialiser les gens selon leur origine ou leur identité présumée. Après, il y a aussi dans le... Bon, il y a une différence entre les dirigeants occidentaux et français qui soutiennent inconditionnellement Israël et la population qui est en train de se retourner, qui considère de plus en plus majoritairement que les fauteurs de guerre, ce sont les dirigeants israéliens. Mais comment je pourrais dire, sur la question de la solidarité des dirigeants avec les dirigeants israéliens, il faut surtout pas se faire piéger par une prétendue culpabilité des Occidentaux sur la question de l'antisémitisme. Si les Occidentaux s'étaient sentis coupables sur plus de 1500 ans d'antisémitisme chrétien, puis d'antisémitisme racial, ils auraient dit aux Juifs « on va vous accorder l'égalité des droits ». Ce n'est pas ça qu'ils leur ont dit. Ils leur ont dit « maintenant vous avez un pays, vous dégagez quand vous voulez ». Autrement dit, l'Occident, la France en particulier, s'est débarrassé de sa culpabilité historique sur le dos du peuple palestinien qui n'avait aucun rapport avec l'antisémitisme.
Dans ce contexte-là, un petit peu, quelles sont les perspectives d'avenir? Est-ce que tu penses que justement ce changement dans l'opinion, il est dû à l'action du mouvement de soutien, ou c'est un effet d'accumulation qui fait que les gens ne supportent pas?
Il y a les deux. Il y a de tout, mais par exemple, il est certain que... Bon, il n'y avait rien à attendre spécialement de l'ONU quand il y a eu le vote où la Palestine a obtenu son strapontin, mais ça voulait dire quand même qu'une écrasante majorité des pays pensent que ce gouvernement est celui d'un État voyou. Donc ça, c'est quand même quelque chose. Alors, sur les solutions, évidemment, je ne suis pas expert là-dessus, on ne sait pas comment ça va évoluer. Je dirais simplement que le sionisme est en échec. Le but du sionisme, c'était de créer un État ethniquement pur. Les Israéliens ont eu cet État ethniquement pur entre 48 et 67. Ils ont eux-mêmes tué leur projet historique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils se sont mis dans une situation où ils ne veulent pas donner la citoyenneté aux Palestiniens, parce que si c'est un homme, une voix, les Palestiniens vont bientôt être majoritaires. Ils ne veulent pas se retirer des colonies, ils ne veulent pas se retirer tout court, enlever l'armée. Ils ne veulent pas accorder un État palestinien, même un Bantoustan. Et le projet historique du sionisme, qui est le transfert, l'expulsion des Palestiniens au-delà du Jourdain, n'est plus réalisable à moins d'un cataclysme dans la région. On voit mal comment ils arriveraient à expulser 6 millions de Palestiniens. Donc on est arrivé à une situation où, de fait, le gouvernement israélien reconnaît à demi-mot qu'il pratique l'apartheid sur un espace unique. On sait que toutes les luttes anti-apartheid en Afrique du Sud ou dans le sud des États-Unis ont mis des années à triompher, mais qu'elles ont triomphé. Donc je pense que le sionisme ne se trouve pas dans une situation de force, et que c'est la solidarité avec le peuple palestinien dans les trois revendications que j'ai données tout à l'heure, l'égalité des droits, le refus de la colonisation et de l'occupation, le droit au retour des réfugiés. C'est dans ce cadre-là qu'on doit avoir notre action, et qu'elle sera à long terme, elle mettra beaucoup de temps, il y aura sûrement encore des rebondissements et tout, mais l'histoire a montré que les luttes anti-apartheid aboutissent.
Donc clairement, ce que tu dis, c'est que c'est pas des mauvais gouvernements qui géreraient mal Israël. Donc justement, la question qu'on peut se poser, c'est en Israël, qui c'est qui porte, des voies de solution, justement
Il est clair que, un peu comme en France d'ailleurs, le clivage n'est pas gauche-droite, en Israël encore moins. En Israël, le clivage est sioniste-non-sioniste. Alors il est sûr que qui est non-sioniste en Israël? Les trois partis palestiniens d'Israël qui sont représentés à la Knesset, le Tal, le Hadash et le Balad, sont sionistes. Et sinon, il y a ce qu'on appelle les anticolonialistes israéliens. Ils sont peu nombreux. Ce sont des très grandes personnalités. Michel Warshavsky, qui a préfacé mon livre, des personnalités comme Nourit Peled, Amira Haas, Gideon Levy, Ilan Pappé. Et puis des mouvements comme les anarchistes contre le mur, le centre d'information alternatif, la coalition des femmes pour la paix, Betselem, Tahayouch. Bon, tous ces mouvements, tous les mouvements de Refusnik, Yashkoul, Xerouv et tout, tous ces mouvements, ça a fait au plus fort de la guerre contre le sud Liban en 2007 ou de l'agression contre Gaza en 2008-2009, 10-12 000 personnes dans la rue, mais... J'ai envie de dire, je les compare souvent aux porteurs de valises français, quoi. Pas nombreux, mais si une paix juste est possible, ce sera grâce à eux. Et en tout cas, eux, parce que de plus en plus, ils ont créé des associations à la fois israéliennes et palestiniennes, parce qu'ils sont présents sur le mur, parce qu'ils sont présents dans les luttes des Palestiniens, ils sont pas nombreux, mais ils sont très radicalisés. Pour eux, l'ère sioniste est devenue irrespirable en Israël. Souvent, leur engagement pour les plus jeunes, ce sont des ruptures familiales et tout. Mais bon, il n'y a aucun problème, c'est eux qui représentent l'avenir, quoi. Warshavsky a souvent dit, ces anticolonialistes, c'est une petite roue. Et bon, autrefois, elle entraînait la grande. Bah, peut-être qu'elle entraînera à nouveau la grande plus tard.
Donc, et au niveau des perspectives, on a dit quelles sont les actions. Il y avait les deux axes un petit peu. Qu'est-ce que peuvent faire les Palestiniens pour agir sur la situation internationale? Et nous, comment on peut agir pour les soutenir, pour
soutenir? Vraiment, ce qui fait marcher la barbarie, c'est l'impunité des dirigeants israéliens qui n'ont jamais été condamnés pour les crimes de guerre ou crimes contre l'humanité qu'ils ont perpétrés, et c'est la complicité occidentale. Donc, c'est très clair, tant que l'État israélien ne sera pas sanctionné, rien n'évoluera. On a vu que, à deux reprises dans l'histoire, en 1956 et en 1991, il y a eu des sanctions contre les gouvernements israéliens, et instantanément, la politique israélienne a été obligée de se modifier. Donc, il faut aboutir à des sanctions, et c'est véritablement le mouvement BDS, parti des Palestiniens, qui arrivera. Le BDS, c'est pas seulement ne pas acheter ou ne pas commercialiser des produits israéliens, c'est le BDS sportif, le BDS syndical, le BDS universitaire, le BDS culturel, et c'est le BDS politique et tout. Et c'est l'ensemble de tous ces mouvements-là d'isolement qui provoquera le changement. Le modèle, ça doit être ce qui s'est passé contre l'Afrique du Sud. Le sionisme, c'est comme l'apartheid, et c'est bien le mouvement international qui a fait que, à chaque instant, les blancs sud-africains se heurtaient à la réprobation mondiale, que les choses ont changé. Presque, j'ai envie de dire, ce qui a été déterminant en Afrique du Sud, c'est l'expulsion des Jeux Olympiques. Voilà. Si jamais on expulse Israël des Jeux Olympiques, on aura fait un grand pas.
Tu peux peut-être redire le pour
BDS, boycott des investissements sanctions, et les trois lettres comptent. Le boycott, c'est ne pas acheter les produits israéliens. Le désinvestissement, c'est tous les mouvements qui font que de nombreuses banques, fonds d'investissement, compagnies et tout, ont désinvesti ou ont puni les compagnies qui investissent dans la colonisation et l'occupation. Sanctions, c'est aussi bien les sanctions politiques, les sanctions économiques et tout. Voilà. Et c'est la conjonction de tout ça. Le mouvement est structuré, c'est l'adhésion à tout ça qui forcera déjà nos propres gouvernants, nos propres partis politiques qui sont très lâches sur la question ou très complices à changer.
Et la condamnation pénale, tu penses qu'il y a...
La condamnation pénale, il faut tout essayer, mais il est certain que par exemple il y a eu un moment où un certain nombre de pays avaient dans leur législation la possibilité d'inculper des dirigeants israéliens, ils ont cessé de voyager et tout. Donc, il faut tout tenter.
Bon, mais écoute, je pense que on peut inviter les auditeurs à qui tu as donné envie à lire ton livre. Je rappelle, Israël-Palestine, du refus d'être complice à l'engagement, donc qui est paru aux éditions Acrasi, et voilà, qui est... Une somme avec pas mal de références historiques.
On trouvera de tout. On trouvera presque mois par mois l'histoire de cette guerre. On trouvera mon parcours personnel. On trouvera la vie dans l'UJFP. On trouvera les voyages en Palestine, les interviews dans les médias. On trouvera les questions un peu vives, un État, deux États ou ces choses-là. Mais surtout, peut-être les questions théoriques qui sont le plus examinées, c'est la question de l'antisémitisme et surtout la question du sionisme.
Peut-être un dernier mot sur l'UJFP, l'organisation, à la fois voilà. Ce que ses objectifs.
L'Union juive française pour la paix s'est créée en 1994, a commencé à beaucoup se développer à partir de ce qu'on appelle un peu improprement la deuxième intifada, donc à partir de 2000. On est souvent, on nous dit l'UJFP, combien de divisions? On est 300-400 au niveau de la France, on se maintient et tout. Et je dirais qu'on est passé au début de quelque chose qui était presque un peu égoïste. C'est-à-dire nos tout premiers engagements, c'était pas en notre nom, le crime de l'État israélien, c'est pas nous, on n'est pas juifs comme ça. Et puis on est arrivé complètement à la lutte anticoloniale, à la lutte contre l'islamophobie, à la solidarité totale avec les Palestiniens. Et on représente aujourd'hui la composante juive dans le mouvement de solidarité avec la Palestine.
Bon, mais écoute, je pense je te remercie, Pierre Stamboul.
Merci.
À bientôt.